À peu près dans le même temps, le comte de Charlton arriva du Shropshire, ramenant le comte d'Arundel enchaîné. Pour Lord de Wigmore, ce fut là une éclatante revanche, car Edmond Fitzalan, comte d'Arundel, avait reçu du roi une importante partie des biens saisis à la famille Mortimer, et s'était fait conférer le titre de grand juge de Galles, qui avait appartenu au vieux Mortimer de Chirk. Roger se contenta de laisser Arundel debout devant lui tout un quart d'heure, sans lui adresser la parole, le regardant seulement des pieds à la tête, et s'offrant la satisfaisante contemplation d'un ennemi vivant qui bientôt sera un ennemi mort. Le jugement d'Arundel, et sous les mêmes chefs d'accusation que ceux retenus contre le Despenser le Vieux, fut rapidement expédié, et la décapitation du comte donnée en réjouissance à la ville de Hereford et aux troupes qui y stationnaient. On remarqua que pendant le supplice, la reine et Roger Mortimer se tenaient par la main. Le jeune prince Édouard avait eu ses 15 ans 3 jours plus tôt. Enfin, le 20 novembre, une insigne nouvelle arriva. Le roi Édouard avait été pris par le comte de Lancastre en l'abbaye cistercienne de Nice, dans la basse vallée de la Thau. Le roi, son favori, son chancelier, y vivait caché depuis plusieurs semaines sous des habits de moine. Édouard occupait son attente d'un sort meilleur en travaillant à la forge de l'abbaye, passe-temps qui lui distrayait l'esprit de trop penser. Il était là, torse nu, le froc descendu sur les reins, la poitrine et la barbe éclairées par le feu de la forge, les mains environnées d'étincelles, tandis que le chancelier tirait le soufflet et que Hugh le Jeune, d'un air lamentable, lui passait les outils, quand Henry Torscoll s'encadra dans la porte, le haume incliné vers l'épaule, et dit « Sire, mon cousin, voici le temps venu de payer pour vos fautes. » Le roi laissa échapper le marteau qu'il tenait. La pièce de métal qu'il forgeait resta à rougeoyer sur l'enclume, et le souverain d'Angleterre, son large torse pâle tout tremblant, demanda « Cousin, cousin, que va-t-il advenir de moi ?»«
Ce que les barons et hauts hommes du royaume en décideront, » répondit Torscoll.
À présent, Édouard attendait, toujours avec son favori, toujours avec son chancelier, dans le petit manoir fortifié de Monmouth, à quelques lieues de Hereford, où Lancastre l'avait conduit et enfermé. Adam Holton, accompagné de son archidiacre Thomas Chandos et du grand chambellan William Blount, s'en fut aussitôt à Monmouth pour réclamer les sceaux royaux que Baldock continuait de transporter. Édouard, quand Holton eut exprimé sa requête, arracha de la ceinture de Baldock le sac de cuir qui contenait les sceaux, s'entoura le poignet des lacets du sac comme s'il voulait s'en faire une arme, et s'écria
« Messire traître, mauvais évêque, si vous voulez mon sceau, vous viendrez me le prendre par force et montrerez qu'un homme d'église a contraint son roi !»
Le destin avait décidément désigné Mgr Adam Holton pour d'exceptionnelles tâches. Il n'est pas courant d'ôter à un roi les attributs de son pouvoir. Devant cet athlète furieux, Holton, les épaules tombantes, les mains faibles et n'ayant d'autre arme que sa canne à fragile crosse d'ivoire, répondit « La remise se doit accomplir de par votre vouloir, et que les témoins en constatent, Sir Edward. Allez-vous obliger votre fils, qui est à présent mainteneur du royaume, à se commander son propre sceau de roi plutôt qu'il n'y comptait ? Par contrainte, toutefois, je puis faire saisir le Lord Chancelier, le Lord Despenser, que j'ai ordre de conduire à la reine. » À ces mots, Édouard cessa de s'inquiéter du sceau pour ne plus penser qu'à son favori bien-aimé. Il détacha de son poignet le sac de cuir, le jeta au chambellan William Blount comme si ce fût devenu soudain un objet négligeable et, ouvrant les bras à Hugh, s'écria
« Ah non, vous ne me l'arracherez point !»
Hugh le Jeune, amaigri, frissonnant, s'était jeté contre la poitrine du roi. Il claquait des dents, paraissait presque à défaillir et gémissait.
« C'est ton épouse, tu vois, qui veut cela. C'est elle. C'est cette louve française qui est cause de tout. Ah, Édouard, Édouard, pourquoi l'as-tu épousée ?»
Henry Torscoll, Holton, l'archidiacre Chandos et William Blount regardaient ces deux hommes embrassés, et, si incompréhensible que leur fut le spectacle de cette passion, ils ne pouvaient s'empêcher d'y reconnaître quelque affreuse grandeur. À la fin, ce fut Torscoll qui s'approcha, prit le Despenser par le bras, en disant
« Allons, il faut vous séparer !»
Et il l'entraîna.
« Adieu, Hugh, adieu !» criait Édouard. « Je ne te verrai plus, ma chère vie, ma belle âme. On m'aura donc tout pris !»
Les larmes roulaient dans sa barbe blonde. Hugh le Despenser fut confié aux chevaliers d'escorte qui commencèrent par le revêtir d'un capuchon de paysan en grosse bure, sur lequel ils peignirent par dérision les armoiries et emblèmes des comtés qui lui avaient été donnés par le roi. Puis ils le hissèrent, les mains liées dans le dos, sur le plus petit et chétif cheval qu'ils trouvèrent, un bidet nain, maigre et bourru comme il en existe en campagne. Hugh avait des jambes très longues. Il était forcé de les replier ou bien de laisser traîner les pieds dans la boue. On le conduisit ainsi de ville en bourg à travers tout le Monmouthshire et le Herefordshire, l'exposant sur les places pour que le peuple s'en divertît tout son sou. Les trompettes sonnaient devant le prisonnier, et un héros criait « Voyez, bonnes gens, voyez le comte de Gloucester, le lord chambellan, voyez le mauvais homme qui a si fort nuit au royaume !» Le chancelier Robert de Baldock fut convoyé plus discrètement vers l'évêché de Londres pour y être emprisonné, sa qualité d'archidiacre empêchant de requérir contre lui la peine de mort.